pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
L'eau, la ressource en eau, ce qu'on va en faire nous aujourd'hui, c'est la possibilité de vivre sur Terre dans des millénaires. Une lutte plus qu'intergénérationnelle, une lutte qui s'inscrit dans la continuité de la chaîne de vie. L'eau, c'est indispensable, c'est le seul élément vital. On peut faire une grève de la faim plusieurs semaines, je te défie de faire une grève de la soif 3 jours, tu ne tiendras pas. On est nous-mêmes constitués de 70% d'eau. Une vie sans eau, ça n'existe pas. Donc on est sur un élément vital. On n'est pas sur un bien commercial. On est sur un commun qui appartient même pas à notre génération, qui appartient à l'ensemble des êtres vivants de la planète. En tant qu'être humain, on ne peut pas ne pas être dans cette lutte-là.
La lutte anti-bassine va bien au-delà des méga-bassines, au-delà des ravages de l'agro-industrie et du capitalisme. Cette lutte ne s'arrête pas aux nappes phréatiques et aux rivières, elle va jusqu'à l'océan, irrigue toute la planète. Le combat anti-bassine est une lutte possible, parmi d'autres luttes, qui se conjuguent les unes avec les autres. Analyse partagée par les syndicats et associations présents au village de l'eau de juillet 2024, à Saint-Martin-les-Mels, dans le Poitou. Formidable rassemblement organisé sur place par Bassine Non Merci, les Soulèvements de la Terre et une pléiade de collectifs militants. Un village de l'eau officiellement porté par le syndicat Sud Solidaire et l'association Attaque, avec bien sûr la Confédération Paysanne, la CGT et d'autres. Salut les amis, c'est JBD pour La Voix Off. Bienvenue chez les copains et camarades, nouvel épisode de notre série Village de l'eau. On va aujourd'hui passer l'heure qui vient sur le grand champ de foire de Saint-Martin-les-Mels où se trouvaient Grande Seine, Chapiteau, Barnum et des tas de stands d'assos et de syndicats. Canicule en ce jeudi 18 juillet 2024. On est à la veille de 2 grandes manifs prévues, une le vendredi, le lendemain, dans les Champs, une autre le samedi 20 au port de la Palisse à La Rochelle. Ces 2 manifs interdites ne sont pas des actions officielles du village de l'eau, même si ces événements concernent le même public. Ambiance un peu électrique de veillée d'action, la répression de Sainte-Soline est passée par là. Peut y avoir inquiétude et questionnement quant à la pertinence de se retrouver à nouveau face à des forces policières surarmées, capables d'extrême violence. En attendant, on fait la tournée des copains et camarades donc, et on attaque avec Attaque, association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Bonjour Laurine.
Bonjour.
Quelles sont tes fonctions à Attaque ?
Donc je suis bien Laurine Remot et je suis élue au CA et au bureau d'Attaque France.
On ne va pas se lancer dans un grand exposé historique, mais quand même, dans les années 90, il y a cet article du Monde Diplomatique qui parle de la taxe Tobin, taxe sur les mouvements de capitaux, taxe infime, hein. Tobin c'était un économiste, et le Monde Diplomatique avait vulgarisé et répandu cette idée qu'on pourrait taxer les mouvements de capitaux, et de cette idée a découlé Attaque.
Attaque, c'est une association pour la taxation des transactions financières et l'action citoyenne.
Et Attaque donc, a fait le choix avec le syndicat Sud Solidaire, comment on dit d'ailleurs, d'être le support juridique du village de l'eau.
Le terme juridique exact, c'est co-déclarant, donc on est bien co-déclarant de l'événement du village de l'eau, et en fait co-porteur, co-porteuse. Et c'est un vrai choix militant politique, cohérent avec tout ce qu'on a déjà porté de longue date.
Et pour la petite histoire, l'événement est assuré par la MAIF.
Oui, oui.
Ils ne nous ont pas payé pour faire de la pub, d'ailleurs ce n'en est pas, mais c'est un fait.
Oui, c'est un fait. Bah, comme tout événement de cette ampleur, on est sur des ampleurs similaires à des gros festivals. On est dans l'obligation de passer par un assureur, en effet. Ouais.
Quand dans leur pub, la MAIF, ils disent qu'ils sont assureurs militants, on dit bon, voilà. Manifestation, celle de vendredi et de samedi, déclarée interdite.
En fait, on est juridiquement co-déclarant du village, comme on l'a dit précédemment. On n'est pas déclarant et porteur des manifestations. Maintenant, si tu parles évidemment symboliquement et politiquement, on se désolidarise en aucun cas des manifestations qui sont portées et proposées vendredi, samedi.
Attaque est une association anticapitaliste, anticoloniale.
Oui, je parlais des fondamentaux tout à l'heure. Souvent, là, en ce moment, on parle de justice fiscale, sociale et écologique. Les thématiques d'attaque sont très variées. Et pourquoi ça fait sens d'être dans ce village? Parce qu'en fait, on retrouve ces thématiques. On trouve que c'est un écrin formidable, un cadre avec une interorga hyper plurielle, hyper vaste. C'est un cadre de rencontre militante, quoi. Nous, on a apporté ce village pendant un an maintenant avec les camarades qu'on salue parce que c'est un boulot monstrueux. On voit très bien ce qui se passe et ça va dans le sens de cette période qui est complexe politiquement. Et en fait, on veut aller vers de plus en plus d'interorga de ce genre.
Personnellement, tu iras aux manifs de vendredi et de samedi en tant qu'individu, personne et plus porte-parole d'attaque.
Oui, j'y serai. Ouais. Pour moi, c'est une forme de cohérence de ne pas lâcher les camarades et de participer. C'est une marche populaire pour appeler à minima un moratoire. Il me semble que ça tombe sous le sens d'y être et puis que c'est peu demandé au final. Ce qu'il faut dire aux camarades ici présents, c'est qu'on a travaillé avec énormément de collectifs, d'organisations, de syndicats, de mouvements, à créer quelque chose qui, en soi, est, de mon point de vue et de notre point de vue, déjà une réussite. Sans même parler de ce qui va se passer demain, après-demain, en termes de manif, c'est déjà avoir, dans une période politique aussi complexe, avoir un visuel aussi clair sur des luttes locales, avoir des assemblées sur des thématiques hyper variées, en particulier sur l'antifascisme et effectivement l'anti-impérialisme, c'est déjà une victoire en soi, et commencer à s'organiser sur des modes d'action qui sont hyper vastes en réalité, alors qu'on n'a pas forcément les mêmes cultures militantes, c'est aussi incroyable.
Moi, ce que j'avais dit, c'était que ATTAC, c'était avant tout une association citoyenne, en fait, comme on est sur à la fois la justice sociale, la justice fiscale, la justice environnementale. Sur la question de la justice environnementale, la question du partage de l'eau, elle est évidente pour nous, en fait, à prendre en compte. Et la gestion des communs, en particulier, pour une gestion plus démocratique des communs, ce qui est exactement le sens de la lutte des bassines. C'est pour ça qu'on est là depuis le début, en fait. Et après, il y a aussi l'aspect international, parce qu'il y a un aspect, disons, altermondialiste d'ATTAC qui est important et internationaliste. Et là, cette année, il y a un axe particulier qui a été donné. ATTAC cherche toujours à créer du lien, à rassembler, à créer de la co-organisation et du lien. Et là, il y a pas mal de représentants de lutte internationale qui sont venus pour qu'on puisse avoir des échanges avec eux, qu'on puisse prendre et s'inspirer d'eux, qu'eux puissent aussi connaître ce qui se passe chez nous et créer du lien à ce niveau-là. C'était assez important pour cette année, quoi.
Après ATTAC, autre porteur officiel du village de l'eau, le syndicat Sud Solidaire. Bonjour Julie.
Bonjour.
Tu es la personne qui a lu un communiqué de Solidaire en AG.
Oui, déjà, donc, je suis Julie Ferrua, co-déléguée générale de l'Union syndicale Solidaire. Et donc effectivement, j'ai pris la parole ce matin. Voilà, je vais vous lire la prise de parole. Bienvenue à toutes et tous au village de l'eau. En tant que structure co-déposante de cet événement festif avec ATTAC, nous sommes ravis de vous accueillir sur ce lieu d'échange, de construction d'autres possibles, de lutte festive et de solidarité. Plus de 120 organisations appellent à cet événement et on remercie encore Sylvain, le maire de Mel, pour son accueil, sa disponibilité, son aide. Et nous dénonçons toutes les menaces qu'il a reçues et qu'il reçoit encore. Nous lui apportons tout notre soutien. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs milliers de personnes sur le site. Merci à vous d'être là. Pour l'Union syndicale solidaire, le combat écologique pour la justice sociale et environnementale est un combat syndical. Gouvernement et patronat sont prêts à tout pour empêcher une véritable reconversion écologique de la société. Leur objectif est de préserver les intérêts de quelques très riches et de maintenir un modèle économique fondé sur l'accumulation du capital et une croissance infinie, impossible dans une planète aux ressources limitées. Solidaire se bat pour une transformation en profondeur des systèmes de production et de consommation et développe une écologie pour et par les travailleurs et les travailleuses. Nous sommes depuis plusieurs années aux côtés de Bassines Non Merci. Et comme nous l'avons dit l'année dernière, lors de la lutte contre la dissolution des soulèvements de la Terre, nous sommes tous les soulèvements de la Terre. Convaincus de la fausse opposition entre la préservation de la planète et la création d'emplois, entre la fin du mois et la fin du monde, nous avons décidé de porter ensemble des propositions fortes de rupture avec le système capitaliste défaillant. La période actuelle nous confirme bien que les extrêmes droites sont la roue de secours des capitalistes, comme l'histoire nous l'a déjà montré. Pendant la mobilisation agricole de ces débuts d'année, elles ont notamment ciblé les mesures environnementales en épargnant les multinationales de l'agro-industrie. Leur appel à la haine ont des impacts, entraînant les attaques qui ont eu lieu sur les bâtiments de l'Office français de la biodiversité, menaçant les militantes et les militants écologistes, les inspecteurs et inspectrices du travail, les scientifiques, ou prenant encore pour cible nos camarades de la Confédération paysanne. Avec l'extrême droite, l'heure n'est pas à l'échange d'arguments scientifiques. Nous nous devons donc d'amplifier le combat contre l'offensive d'extrême droite qui infuse partout dans la société et jusqu'au plus haut sommet de l'État et menace toujours plus nos libertés publiques, nos libertés académiques, la recherche scientifique, la démocratie si essentielle pour faire face aux défis écologiques. C'est ce pourquoi nous sommes aussi rassemblés ici, à Mel, au village de l'eau. Soyons fiers, toutes et tous ensemble, de ce que nous portons. Ne cédons rien à notre projet de débarrasser l'agriculture et l'alimentation du capitalisme. Que ce soit face à nos chefs, face au ministère de l'Agriculture, face au lobby de l'agro-industrie dans toutes les instances et sur toutes les chaînes, face aux catastrophes agricoles, face à l'urgence d'agir, il y aura toujours une de nos organisations pour se dresser et démontrer implacablement qu'un autre modèle est possible. La terre et l'eau appartiennent à toutes et tous, ou bien à personne, nos Bazaram.
Tout est dit.
Tout est dit. Alors après, ce qu'on n'avait pas abordé, mais que je pense que les camarades d'attaque vont plus développer, c'est que cette lutte qui se construit autour du village de l'eau est une lutte aussi internationale. Il y a plusieurs invités internationaux qui sont là et qui permettent effectivement d'échanger sur leurs pratiques, sur comment eux et elles luttent dans leur propre territoire et comment on peut s'en inspirer nous aussi pour nos propres territoires en France. Donc ça nous paraît essentiel aussi de rappeler que cet événement c'était quelque chose d'international et de très très riche.
Et que la présence de Solidaires sur cette lutte-ci est historique. Il y a toujours eu des drapeaux solidaires qui flottent sur ces manifestations-ci, comme plein d'autres.
Tout à fait, parce que ça fait partie effectivement de notre ADN. Et comme ça a été redit et renouvelé à notre dernier congrès, en fait, les luttes écologiques et sociales, elles sont essentielles pour Solidaires. Ça fait vraiment partie de quelque chose que l'on construit partout, sur nos lieux de travail, sur nos territoires, parce qu'il ne faut pas oublier que les travailleurs et les travailleuses vivent dans des territoires que l'agro-industrie et les multinationales sont en train de détruire et que c'est aussi pour ça qu'il faut se mobiliser. Et c'est aussi ce qu'on veut rappeler à l'ensemble des travailleurs et des travailleuses, que les luttes sociales, les luttes écologiques, elles sont intimement liées.
Bonjour Hervé.
Bonjour. Je suis co-délégué de l'Union départementale solidaire de Sèvres, donc avec Christelle de Châtre-Bonnard. Et dans mon syndicat, dans mon entreprise, je suis délégué syndical.
Sud Solidaire, partie prenante dans l'organisation de ce village de l'eau.
Oui, comme l'an dernier, en centre-ville de Mel, on co-organise l'événement. Donc on porte statutairement et juridiquement l'organisation avec ATTAC, en partenariat avec la mairie de Mel et Sylvain et toute son équipe. On est de nouveau présent cette année sur un format plus riche, plus long, donc plus de travail. Et puis évidemment, y a toute l'équipe, notamment de BNM derrière, les bénévoles, etc. Mais on est là avec nos forces et nos moyens.
On pourrait se dire, Sud, c'est plutôt urbain, ça défile dans la rue, en général contre la réforme des retraites ou la casse des services publics. V'là du solidaire à la campagne.
Eh oui, mais pourquoi pas. Il n'y a pas de contradiction avec ce qu'on porte, loin de là. Effectivement, on a parfois des questions qu'on va trouver nous bizarres, de savoir mais qu'est-ce que vous faites là, les méga-bassines, c'est quoi le lien? Le lien, c'est la convergence, c'est l'ennemi qui est derrière, qui s'appelle le capitalisme, qui est là pour faire du profit et qui est écocidaire et qui détruit tout. La biodiversité, qui accapare l'eau, qui détruit les sols, qui détruit les personnes qui travaillent, les paysans, les paysannes. On est un syndicat de lutte pour les travailleuses et les travailleurs, mais on est aussi un syndicat de transformation sociale, donc féministe, antifa et écologiste.
Le combat se mène sur tous les fronts, quoi.
Tout à fait. Pour nous, tout est lié. Hein. La cause féministe, la lutte contre l'extrême droite. D'ailleurs, le village de l'eau a pris cette connotation-là parce qu'il y a une urgence. Mais il y a une urgence climatique, il y a une urgence à voir autrement, à partager, à concevoir le vivre ensemble autrement. Notre lien à la nature, à la biodiversité, à l'eau. Considérer que ce n'est pas une marchandise qu'une minorité s'accapare pour produire de façon industrielle, pour exporter. Non, ce n'est pas ce modèle qu'on veut. La trame, c'est le capitalisme. Nous, ce qu'on veut, c'est autre chose, c'est notre société. Et c'est pour ça qu'on se retrouve de façon unitaire avec des organes, des collectifs comme BNM, comme le Soulèvement, comme la CONF. Solidaire fait partie de l'Alliance écologique et sociale aussi. C'est aussi un collectif de convergence. On a un défi, hein, c'est... Fin du monde, fin du mois, hein, c'est-à-dire que tout est lié. Ça sert à quoi de lutter dans les entreprises si le monde, à un moment, sera invivable? Voilà. Donc l'ennemi commun, il est identifié, on est face à lui.
Comme on voyait sur certains panneaux dans le mouvement social de 2023, pas de retraités sur une planète brûlée.
Oui, on a un problème de vivre ensemble, très clairement, sur la planète, parce qu'on est internationaliste et la lutte pour défendre l'eau, pour défendre la biodiversité, pour défendre l'endroit où on vit ensemble, tous ensemble, pour que tout le monde puisse se soigner, se nourrir, se loger, avoir de quoi décemment vivre sur une terre en bonne santé, elle nous concerne tous, sur tous les territoires. Il n'y a pas de frontières là. On l'a vu tout à l'heure à la conférence de presse, moi j'étais très touché par les camarades d'Amérique du Sud, hein, des peuples autochtones, qui j'en avais la chair de poule, parce que ouais, voilà, on est tous ensemble et ça grandit, et c'est chouette.
Il y a un truc dont je n'avais pas vraiment pris conscience. Je pensais qu'au départ, lutter contre les bassines, c'était strictement écologiste et certes anticapitaliste. Il faut le comprendre, en fait, que tout ça marche main dans la main avec le monde du béton. C'est ce que les zadistes essayaient de faire comprendre à Notre-Dame-des-Landes contre l'aéroport et surtout son monde. Donc l'un des angles d'attaque, c'est les bassines, mais ça peut être aussi des incinérateurs Lafarge, des bétonneurs. En fait.
Nous, on est l'Union départementale solidaire 119. Il y a des camarades du 85, du 86, du 16, donc la Charente, la Vienne, la Vendée, en proximité de cette lutte de méga-bassines, parce que eux aussi, ils ont été ou ils sont confrontés, ils pourraient être confrontés à cette infamie, j'ai envie de dire, écocidaire. Haute-Garonne, solidaire Tarn est dans la lutte contre la 69, la bétonisation, cette régression qui tue la biodiversité, les sols, etc. Demain et après-demain, Julien Trocaz, un camarade de Sudrail, un représentant fédéral, sera là parce que Sudrail, ils sont contre le projet Lyon-Turin d'une nouvelle ligne de train. Ils sont sur leur lutte et ils font partie de l'Union syndicale solidaire. Donc chacun prend sa part. Et puis je terminerai là-dessus. On a eu notre congrès il n'y a pas longtemps à l'Abèche Toulouse qui nous donne notre cahier revendicatif pour les prochaines années. On est tous d'accord. Il y a un vrai consensus dans toutes les organisations, les fédérations, les syndicats, les unions départementales au sein de Solidaire pour continuer cette lutte. Voilà.
Suite à Sainte-Soline, il y a eu des procès, notamment à Niort, où la justice a eu la main lourde. Tu faisais partie des 9 personnes qui sont passées au tribunal.
Je fais partie des condamnés. Tout le monde a été condamné. On a tous fait appel, je crois, sauf le camarade de l'Ariège.
Sous quel motif ?
Alors moi, avec David de l'UDCGT, c'était pour organisation d'une manifestation interdite lors de l'épisode Sainte-Soline 1.
2022.
On a été condamné puisque Solidaire et la CGT 119 avaient déposé une déclaration de manifestation qui a été refusée. Donc on a fait appel, on conteste les faits évidemment et on ne se laissera pas impressionner.
La justice condamne en l'occurrence un individu, toi, mais
oui.
Pas le syndicat.
Oui, oui.
Donc en fait on en prend un du lot, c'est quoi, c'est divisé pour mieux régner.
Notre souci c'est pas l'incarnation. Bon, après Hervé Auguin, il y en aura plein d'autres et des meilleurs. Nous ce qui nous intéresse c'est gagner la lutte, point. Alors moi je vais être condamné, mais il y en aura d'autres qui vont arriver, les structures sont mobilisées. On voit bien qu'aussi on agrège d'autres organisations, d'autres collectifs, parce que la raison de notre côté, moi j'ai une formation scientifique, les scientifiques, les spécialistes de l'eau disent les méga-bassines c'est une maladaptation dans un contexte de réchauffement climatique. Point, 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 point. Et les camarades de la Confédération paysanne proposent un autre modèle, beaucoup plus vertueux et qui est possible. Donc on ne va pas s'arrêter, on ne va pas s'arrêter. Il y a une condamnation, on a fait appel, on ne transigera pas avec ça, on se projette dans la lutte et ça a été validé collectivement.
À quoi as-tu été condamné ?
500 euros d'amende et puis un an d'interdiction de port d'armes, je crois, un truc comme ça.
Parce que tu portes régulièrement des armes, toi ?
Oui, bien sûr.
Des parapluies,
oui, voilà,
des raquettes de tennis, voilà, tu joues
ça.
À la pétanque ?
Voilà, voilà. Je coupe ma viande ou mes légumes avec un couteau, bon, voilà. Voilà. C'est pitoyable.
Si t'es si dangereux que ça, t'es dangereux à 500 balles, quoi.
Je pense surtout aux autres camarades dont le verdict a été plus lourd. On a été insultés pendant ce procès, notamment lors de la deuxième audience, quand l'avocat de la coordination rurale nous a comparé à Pol Pot, a dit que nous n'aimions pas les agriculteurs, alors qu'il y avait des paysans parmi les prévenus. Moi, j'ai des origines paysannes, comme d'ailleurs tout le monde. Hein, mon grand-père, mon oncle, ils ont travaillé dans ce milieu-là. Je n'ai pas de honte, je n'ai pas de fierté. On vient tous de la campagne. Hein. Mais nous traiter de terroristes, les mots ont du sens. Et le problème, c'est que les politiques en place, certains syndicats de paysans et leurs leaders utilisent des mots lourds de sens, qui n'ont pas de sens. Reprenons la définition du terrorisme et on verra que ces mots sont utilisés à tort. Le problème, c'est qu'on a en face de nous une minorité qui a le pouvoir, où il y a beaucoup de lobbying depuis très très longtemps, notamment dans le monde agricole, qui fait un peu la pluie et le beau temps et que les politiques ne disent pas non. Voilà, on a beau avoir, je pense, une majorité qui nous suit, une majorité de personnes qui s'aperçoivent qu'effectivement, ça n'a pas de sens, les méga-vaccines n'ont pas de sens. Bon, mais c'est pas nous qui avons le pouvoir politique. Ben, on prend le pouvoir ailleurs et c'est ce qu'on essaye de démontrer depuis plusieurs années.
tu as cité et évoqué deux syndicats. La coordination rurale, bon, qui est un syndicat agricole proche du Front National.
Oui.
La FNSEA, qui est un syndicat d'exploitants agricoles qui vise à la disparition du monde paysan et à l'industrialisation.
C'est l'agro-industrie derrière qui pousse.
Et il y a un autre syndicat par contre qu'on aime bien, qui est la Confédération Paysanne. Il y a des liens solidaires Confédération Paysanne.
J'évoquais tout à l'heure l'Alliance écologique et sociale. La Confédération Paysanne fait partie de cette Alliance écologique et sociale avec des associations environnementales et avec des syndicats de travailleuses et travailleurs comme Solidaire et la FSU. Je ne vais pas prendre un terme patronal que j'entends trop souvent dans mon mandat d'entreprise, mais il y a un vrai travail transversal, de cohérence et de convergence qui est super intéressant parce que derrière ça, on emmène un autre modèle et porter la transformation sociale, c'est vachement chouette et valorisant parce qu'on y est là, on y est. Il y a un projet. Et c'est travailler entre camarades de la conf et des assos et des syndicats parce que tout se tient. C'est ça l'avenir.
On continue à discuter avec des camarades syndicalistes de Sud Solidaire. Et si vous étiez dans le mouvement social de 2023, vous avez marché avec cet hymne « On veut du fret ferroviaire » avec Julien le cheminot. Bonjour Julien.
Bonjour.
Sud Rail ?
C'est ça, ouais, la fédération Sud Rail qui réunit tous les travailleurs et les travailleuses du rail.
Solidaire et co-organisatrice et porte légalement ce village de l'eau. Quand on connaît Solidaire, évidemment, et Sud, ça tombe sous le sens.
Je ne sais pas si ça tombe sous le sens, parce que en fait, c'est quand même nouveau hein, que le mouvement syndical se réinterroge et affirme, et ça c'est le cas pour nous, pour l'Union syndicale Solidaire et la Fédération Sud Rail, de dire lutte sociale et lutte écologique, en fait, il faut les allier, il faut travailler ensemble, il faut apprendre à se connaître. On est complémentaires en fait, on n'est pas opposés ou on n'est pas en parallèle. Il faut qu'à un moment donné, il y ait de l'intersectionnalité qui passe par là. C'est construire un champ de lutte partagé. C'est pas avoir des convergences des luttes, c'est construire un champ de lutte partagé. Et le champ de lutte là, alors c'est le village de l'eau et ça veut dire c'est le sujet de l'eau. Moi j'étais ce matin sur le lien transport et logistique. Enfin voilà, on a des champs de lutte, on les construit ensemble. Et c'est des moments, parce que la vie, il faut apprendre à se connaître, à se renforcer, à savoir le rythme de chacun et de chacune, ce qui peut être différent. Hein, le mouvement syndical avec le mouvement social, avec les soulèvements de la terre, avec les méga bassines, avec voilà. Et donc c'est des cadres qui sont très importants. Puisqu'on a les mêmes objectifs et on a les mêmes ennemis.
Par exemple, à La Rochenard en 2022, à Sainte-Soline 1, Sainte-Soline 2, il y a toujours des drapeaux solidaires et sud qui flottent sur ces manifs.
Ouais. Bah, c'est la volonté de notre transformation sociale, enfin, de notre syndicalisme. Il y a évidemment la défense immédiate des salariés, mais il y a le syndicalisme dans les entreprises, mais il y a cette volonté de transformation sociale, de changer la société. Et donc ça passe par là, ça passe par être présent à des moments-là, même si faut être aussi humble, parce que le syndicalisme qu'on le fait, on le fait avec les salariés. C'est un sujet d'émancipation, donc il faut aussi avancer avec les masses. En fait, il ne faut pas non plus qu'on ait une élite qui ait bien conscience des enjeux, mais qui abandonne alors, les équipes militantes, les salariés avec lesquels on essaye de se coordonner.
Vous qui faites des manifs depuis longtemps, vous savez qu'il y a ce qu'on pourrait appeler des tubes de manifs. Donc il y a motivé, il y a on lâche rien. Là, voilà. D'ailleurs, on les a tellement joués qu'on commence à en avoir un peu ras-le-bol. Heureusement, les vulves assassines sont arrivées avec la retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Il y a aussi Planète Boum Boum, pas de retraité sur une planète brûlée. Et il y en a un qui est apparu il y a quelques temps, là, ça chante du fret, du fret, du fret.
C'est la Fédération Sud Rail, c'est l'Alliance écologique et sociale. Donc ça réunit Greenpeace, les Amis de la Terre, ATTAC, la FSU, la Confédération Paysanne, j'en oublie certains. Et alors Planète Boum Boum et alors Action Climat Justice qui est ex-Alternativa 75. Enfin, c'est une très belle aventure pour moi. C'est un moment de ma vie syndicale important. Pour l'anecdote, on est le 13 octobre, on est à Paris, Rem, hein, le compositeur de la chanson. Il écrit un bout la veille, il écrit un truc sur le fret. Bon, il le chante, il me fait relire, et puis le lendemain, donc, il va à la manif, une manif un peu pourrie, hein, celle du 13 octobre 2023. Il la chante, et en fait, les camarades du rail disent « Putain, il faut qu'on en fasse un clip ». Et donc, on est parti sur cette aventure, chacun avec son réseau, chacun avec... et on a fini avec un clip. Et donc, On a mis en plus de ça dans nos alliés en fait et dans nos luttes, on a mis de la culture, de la musique. Ça renforce une lutte en fait, ça identifie une lutte, ça donne du poids et puis aussi du bonheur en fait. Enfin, la lutte, c'est quand même vachement beau d'avoir une lutte joyeuse autour d'une musique qui donne la pêche, que bon, peut-être toujours les mêmes musiques ou alors des slogans et à un moment donné. Donc ça renforce une lutte, donc c'est une partie qui était très chouette.
Du fret, c'est aussi un message environnemental. Il y a eu quand même ce choix du tout pétrole, tout bagnole, tout goudron. Et moi, j'ai le cœur fendu quand je me balade dans ce pays, dans de tout petits bleds. Des fois, il y a une petite gare qui est devenue une maison particulière. Mais de se dire que quand on regarde le réseau de ce qu'était le chemin de fer, ce réseau était extraordinaire et desservait jusqu'au moindre fin fond de province. Non seulement les personnes, mais aussi les biens. Le transport des biens, c'est ce qu'on appelle du fret.
Tout à fait. C'était... Et normalement, quand tu as un système de fret ferroviaire ou un système ferroviaire qui est robuste, c'est signe de bonne stabilité économique, on va dire. Ça veut dire que tu as un pays un peu robuste parce que tu peux te développer et tu as un moyen de transport qui te permet. Sauf que ce moyen de transport, le ferroviaire, il faut, nous ce qu'on dit, il faut l'adapter, il faut l'analyser avec une stratégie de politique industrielle et logistique. Mais nous, on est sur un sujet de relocalisation et puis sur de l'aménagement du territoire aussi. Ça veut dire aussi, le sujet des transports, c'est pas de tous aller travailler dans des métropoles et boulot et métro. Donc il y a une réflexion évidemment qu'il faut porter. Il faut qu'on ait des vraies volontés de rupture. Sur ces sujets-là, la Fédération Sudrail, on y est aussi favorable, alors ça va prendre du temps aussi. La Fédération Sudrail, par exemple, contre le Lyon-Turin. Alors on dit comment ça se fait, vous êtes des cheminots et des cheminotes et vous êtes contre un projet ferroviaire. Il n'y a rien de ferroviaire, hein. Pour l'instant c'est que du BTP et c'est une volonté de toujours continuer le même système productiviste, c'est-à-dire toujours aller plus loin, toujours aller plus vite. Et nous on s'oppose à ça. Et oui, il faut du ferroviaire pour améliorer la vie des gens, hein, la vie du quotidien. Donc. Et ce qui est triste, c'est quand on compare la carte des dessertes ferroviaires qui sont abandonnées et si on compare le vote du Rassemblement National, on s'apercevra que malheureusement le vote du Rassemblement National, il est là où, évidemment, c'est pas parce que la gare a été supprimé que les citoyens et citoyennes voyaient comme ça. Mais c'est un symbole d'abandon. C'est un
service public.
De service public et d'abandon. D'abandon, parce que même de boulangerie, ou voilà, il y a le service public, mais d'abandon et de dire, bon, bah voilà, la gare, ça a un symbole dans. Voilà, quand t'as plus ta gare, si ton train ne s'arrête plus dans la gare, parce que quand on freine ta gare, très rapidement, le train s'arrête moins, parce que voilà, c'est comme ça, c'est un cercle qui n'est pas très vertueux, tout ça, et ben on arrive à du repli sur soi et à monter de l'extrême droite. Donc évidemment, il faut que le ferroviaire, on le disait ce matin, hein, c'était cool ce matin, on avait une table ronde avec la 69, avec la déroute des routes, avec Green Dock, avec tout ça, et on voit bien, et c'est pas pour faire du corpo à un peu au rabais, mais c'est que le ferroviaire, dans tout ça, doit devenir une place incontournable, il ne doit pas juste être une alternative.
Et je parlais d'environnement parce qu'évidemment, il n'y a pas photo entre le bilan carbone d'un convoi de train de fret et de je ne sais pas combien de milliers ou de centaines de camions. Il n'y a juste pas photo. D'ailleurs, j'ai lu, je crois, qui supprimerait la ligne qu'on appelle la ligne Rungis, qui apportait des primeurs, enfin, qui apportait ce qui alimentait les halles de Paris. Et que cette ligne qui apportait ses denrées à la capitale serait supprimée, mais remplacée par je ne sais pas combien de milliers de camions.
Oui, c'est ça. Ça veut dire, bah, là, en plus, on y est dans la lutte, là. On parlait du clip, c'est la liquidation de fret SNCF, donc ça veut dire que la puissance publique avait encore une entité qui pouvait faire du fret ferroviaire, ça veut dire du transfert, du report modal, de mettre des marchandises sur le rail. Ils sont en train de vouloir le liquider, ça veut dire continuer dans ce système capitaliste et donc des filiales et du dumping social et tout ça. Donc ils abandonnent ça et on le sait parce que ce qui est grave en fait dans le ferroviaire, c'est que quand on prend des décisions, ça peut être des décisions irréversibles parce que quand on supprime des voies, quand on enlève des voies dans des zones industrielles et qu'on les remplace par exemple par des pistes cyclables ou par d'autres choses, on les remettra pas en fait. C'est très le ferroviaire, c'est coûteux, mais c'est du temps long aussi. C'est que quand on crée une ligne de chemin de fer, quand on détruit une gare ou quand on détruit un ouvrage d'art, le routier, ils peuvent te faire des ronds-points toutes les années. Chaque maire, pour bien se voir, il change la voirie dans sa commune. Le ferroviaire, c'est pas le cas. On change pas le ferroviaire. Donc, il y a des choix qui sont faits là et qui peuvent être irréversibles et qui, à un moment donné, on le sait, avec l'urgence climatique, nous oblige, la bifurcation écologique nous oblige à réduire les gaz à effet de serre et donc le transport. Et le ferroviaire, c'est l'une des solutions. Si on n'arrête pas cette machine infernale, on va arriver, on sera même plus capable. On pourra avoir la volonté ou dire, bon, là, on est obligé, mais on n'y arrivera plus parce qu'on n'aura pas ce qu'on appelle, nous, l'outil de production et évidemment les cheminots et les cheminotes et les travailleurs et les travailleuses qui vont avec.
Du fret. Quand c'est des gens et pas des marchandises qu'on transporte, on dit quoi?
On dit du train ou du service public. Ou du bien commun, parce que c'est pareil, la volonté qu'on veut, c'est que le ferroviaire, il appartient, c'est un bien commun, il appartient à la société. En fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde et que les usagers et usagères décident de leur train à quelle heure ils le veulent, à quelle heure le guichet doit s'ouvrir. Enfin, c'est un vrai bien commun, c'est quelque chose qui appartient. Alors, il y en a qui diront la nation, il y en a qui diront la société, il y en a qui diront plein de choses, mais ça nous appartient et ça, c'est ça que la lutte. Et donc des luttes usage voyageurs-voyageuses, cheminots-cheminotes, ou des luttes qu'on a aujourd'hui avec tous nos alliés.
La clientèle libérale, le chef Macron la régale. Service public étoilé devient buffet à volonté. Le privé a toujours faim, il veut même bouffer nos trains. Pour que le capital graille, la SNCF déraille. Nous, on a des goûts basiques, on aime le service public. Les bonnes recettes de grand-mère, on veut du fret ferroviaire. Du fret, du fret, du fret, du fret, du fret. Du fret ferroviaire, du fret, 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 du fret ferroviaire. Le gouvernement nous sert un menu au goût amer, bouillie de train made in France, à la sauce concurrence. Macron nous prive de dessert pour gaver les actionnaires. En nous sucrant tous nos trains, il fait croquer ses copains. Nous, on a des goûts basiques, on aime le service public. Les bonnes recettes de grand-mère, on veut du fret ferroviaire. Du fret, 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 du fret ferroviaire. Du fret, 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 du fret ferroviaire.
Les farandoles de wagon, ça reste sur la digestion. Qui ringardisent les trains pleins de marchandises. Même si c'est plus écolo, le chef dit que c'est un torboyau. Plutôt qu'un bon verre de gnoll, Macron préfère les bagnoles. Et même si t'en as trop bouffé, tonton Manu va te caver. D'autoroutes pleines de camions, d'eau fumée, de pollution. Et si la planète dégueule, et que le climat c'est le spell de cette grosse indigestion, c'est toi qui paieras l'addition. On a des goûts basiques, on aime le service public. Les bonnes recettes de grand-mère, on veut du fret ferroviaire. Du fret, 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 du fret ferroviaire. Du fret, 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 du fret ferroviaire. Nous, on a des goûts basiques, on aime le service public. Les bonnes recettes de grand-mère, on veut du fret ferroviaire. Du fret.
Planète Boom Boom avec Julien et ses camarades cheminots de Sudrail, avant de poursuivre notre tournée des copains et camarades du village de l'eau, où, aux côtés de Sud Solidaire et des autres, on a aussi le plaisir de trouver la CGT. Bonjour David.
Bonjour, David Baudin, secrétaire général de la CGT des Deux-Sèvres.
Solidaire et Attaque portent juridiquement ce village de l'eau. Bonne surprise que d'y trouver la CGT.
Alors la CGT dans les Deux-Sèvres est engagée au sein du collectif Bassine Non Merci depuis 2016. Voilà, nous avons été organisateurs, co-organisateurs de nombreuses manifestations tous ensemble. Mais l'actualité a fait qu'on n'a pas pu être au début de l'organisation du village de l'eau, mais c'était normal d'être présent pour s'opposer à la privatisation de l'eau.
Mais on pourrait rester sur l'image erronée du côté productiviste de la CGT, un peu hérité des 30 glorieuses, l'industrie c'est de l'emploi, et c'est pour ça que je dis que c'est une bonne surprise de vous trouver ici.
Alors la CGT, elle est très engagée régulièrement pour des luttes environnementales, parce que ça rejoint le droit de tous les travailleuses et les travailleurs qui ont besoin nécessairement d'eau, mais qui ont besoin aussi d'une planète qui va bien pour vivre, voilà, et pour pouvoir vendre leur force de travail et à obtenir une rémunération la meilleure possible.
Voilà. Pas de retraité sur une planète brûlée.
Exactement, c'est ça, pas de retraité sur une planète brûlée. Et, enfin, la CGT, elle est très contente d'être là, et la lutte contre les méga-bassines, elle le porte dans de nombreux départements, c'est pas juste les Deux-Sèvres. On a été présents sur la manif dans le Puy-de-Dôme, on a été présent sur la manif du Greenstock, on a été présent même sur Notre-Dame-des-Landes. Effectivement, ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place, mais sur Notre-Dame-des-Landes, il y a eu une décision claire en fait contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
Il y a une espèce de révolution culturelle lente qui s'opère à la CEGET vis-à-vis de ces luttes, vis-à-vis de l'environnement, que le curseur il a changé.
On peut pas vraiment dire que le curseur il a changé. La CGT, elle était déjà impliquée dans beaucoup de luttes écologistes, et notamment dans les boîtes. Dans de nombreuses boîtes, notamment industrielles, on s'est beaucoup battu sur la question de l'eau aussi, voilà, pour dire, mais cette eau qu'on utilise pour notre industrie, quel recyclage on lui promet et quelle éventuelle double utilisation on lui promet. Par exemple, une industrie à Niort qui s'appelle Pierre Guérin, qui fait des cuves alimentaires en inox. Les camarades de la CGT, dans la boîte, ils ont dit au patron un jour « Mais cette eau-là qu'on utilise pour vérifier nos soudures de cuve, c'est quand même complètement con de la balancer à l'égout. On ne pourrait pas faire autrement. » Et ils ont mis en place, avec les services des espaces verts de la ville de Niort, une récupération de l'eau qui servait à tester les soudures pour que ça puisse servir pour l'arrosage municipal, ce qui semblait logique. Ce que le patron n'aurait pas pensé lui-même, tout seul.
Les manifestations de vendredi et samedi sont interdites par les autorités. Est-ce que la CGT y sera ?
Des militants de la CGT y seront. La CGT, dans sa globalité, n'appelle pas forcément en tant que telle à ces mobilisations. La CGT, elle appelle surtout à s'opposer à la privatisation de l'eau. Mais les militants de la CGT sont tout à fait libres de porter au plus loin, du coup, cette lutte contre la privatisation de l'eau et, du coup, de profiter de ces moments de manifestation conviviaux où tous les militants sont invités à aller, quoi. Voilà, la CGT n'est pas organisatrice sur ce moment-là, mais elle invite tout le monde à pouvoir citoyennement aller lutter, quoi.
Et toi, en tant que, là, enlève ta casquette CGT, t'y seras, toi ?
Alors moi, oui, je serai présent comme j'ai été présent dans toutes les luttes de Bassines Non Merci depuis le début. C'est un mouvement au début, même avant Bassines Non Merci, la CGT, on avait des discussions avec les assos environnementales qu'il y avait autour, voilà, et ça a été un peu propulsé dans Bassines Non Merci ensuite, bah, une fois qu'il y a eu les premières négociations pour commencer des chantiers, quoi.
Suite de notre tournée des popotes syndicalistes et associatives du village de l'eau, avec les copains et camarades de la Confédération Paysanne, la CONF, le syndicat agricole intelligent. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Membre de la Confédération Paysanne.
Ah ben, la CONF est dans la lutte pour la préservation de l'eau et un partage équitable de l'eau depuis le début des luttes. Donc moi je fais partie de la CONF Paysanne de Charente-Maritime. Et j'ai été 4 ans secrétaire national de la CONF en charge de la question d'eau sur le pôle environnement. Donc c'est un sujet que je maîtrise un petit peu. Bah, ça peut arriver qu'à la CONF, en fait, je suis paysan de la mer.
C'est à Oléron, hein, c'est
ouais,
ça ?
Je suis à Oléron, je suis nouvellement retraité, mais j'étais mytiliculteur, donc producteur de moules. Et si tu veux, ça donne une autre ouverture sur le débat sur l'eau, puisque c'est le sujet du village de l'eau. J'ai fait tous les stands du village, à aucun moment on ne voit une image de l'océan. Or, la gestion de l'eau à terre, c'est surtout la préservation de la vie de l'océan qui est le moteur et le régulateur du climat. Et tous les débats agricoles de la gestion de l'eau s'arrêtent au bord de la rivière, puisque une goutte d'eau perdue qui part à la rivière, pour la FNSEA et la coordination rurale et les irrigants, c'est une goutte d'eau perdue. Alors, elle n'est pas perdue du tout, c'est la goutte d'eau qui va amener les sels minéraux qui vont alimenter le phytoplancton. C'est tout petit le phytoplancton, ça se voit qu'au microscope, donc personne n'en cause. C'est la première biomasse végétale de la planète. Sur 4/5 de la surface de la planète, c'est 70% de l'oxygène qu'on respire. C'est l'origine des nuages qui nous ramènent la pluie. Et c'est la nourriture de nos coquillages. Mais pas que, il y a aussi les coraux, les algues calcaires. En fait, le squelette de nos coquillages, c'est du carbonate de calcium. Dans le mot carbonate, il y a le mot carbone. L'océan, c'est aussi le premier puits de carbone. Et ce carbone qui est stocké dans le squelette des organismes à base de carbonate de calcium, il est stocké à des échelles de temps géologiques. Ça va devenir du calcaire. Les falaises de craie du pays de Caux en Normandie, c'est un amoncellement de squelettes de phytoplancton qui s'est accumulé sur des millénaires. Celui-là, il ne repartira jamais dans l'atmosphère. Donc si on gère mal l'eau en amont, le long des bassins versants, eh ben, c'est la mort de l'océan et c'est l'emballement du dérèglement climatique. Juste pour illustrer mon propos, ça fait 3 ans d'affilée que les scientifiques, donc pour nous, alors en agriculture c'est l'INRAE, pour nous c'est IFREMER, l'Institut français de recherche sur la mer. Ça fait 3 ans, sur l'ensemble de la planète, à l'échelle globale de la planète, on est en canicule océanique. Et quand on dit canicule, sur la moyenne globale de la planète, c'est pas 1,5 degré. On est à plus de 2,5 degrés sur l'ensemble des océans de la planète. Donc, il y a urgence. Après, pourquoi on est là ? Parce que pour nous, c'est évidemment pas une lutte pour sauver un modèle agricole à l'échelle d'une carrière professionnelle. L'eau, la ressource en eau qui est disponible pour nous aujourd'hui, vivre sur cette planète, c'est le résultat de son utilisation depuis l'origine de la vie sur Terre. Ce qu'on va en faire, nous, aujourd'hui, c'est la possibilité de vivre sur Terre dans des millénaires. Donc c'est typiquement une lutte plus qu'intergénérationnelle, une lutte qui s'inscrit dans la continuité de la chaîne de vie sur une petite planète qui est un petit vaisseau spatial perdu dans l'univers qui s'appelle la Terre. Et d'ailleurs, on voit bien que l'eau, c'est indispensable. D'ailleurs, c'est le seul élément vital. On peut faire une grève de la faim plusieurs semaines. Je te défie de faire une grève de la soif 3 jours, tu ne tiendras pas. On est nous-mêmes constitués de 70% d'eau. Nous sommes qu'une goutte d'eau. Et en plus, paradoxalement, j'aime bien dire, on est une goutte d'eau de mer, parce qu'on a la même composition et la même salinité, un petit peu plus salée d'ailleurs que l'eau de mer. Et on la perd tout le temps, notre eau. Là, en ce moment, on est en train de discuter. On s'est mis à l'ombre parce que transpiration, on urine et tout. Et donc, cette quantité d'eau qui est vitale à notre corps, on est obligé de reconstituer. Et pour illustrer ce propos-là, tout le monde sait que la conquête spatiale consiste avant tout à essayer de trouver une planète où il y a de l'eau. Parce que telle qu'on connaît la vie, alors il y a peut-être une vie, mais une vie sans eau, ça n'existe pas. Une vie sans oxygène, ça existe. Il y a des bactéries qui vivent dans du sulfure d'hydrogène. Une vie sans lumière, ça existe, au fin fond des grottes et tout. Et il y a de la vie qui se développe sans lumière. Mais une vie sans la présence d'eau, telle que nous, on connaît le monde vivant, ça n'existe pas. Donc on est sur un élément vital. On n'est pas sur un bien commercial. On est sur un commun qui appartient même pas à notre génération, qui appartient à l'ensemble des êtres vivants de la planète depuis son origine et jusqu'à la fin programmée de la planète, parce qu'un jour ça s'arrêtera. Donc c'est une lutte. En tant qu'être humain, on ne peut pas ne pas être dans cette lutte-là. On s'est auto-décrété Homo sapiens sapiens, on a rajouté 2. Bon, voilà, si on n'est pas dans cette lutte-là, on n'est pas un Homo sapiens, quoi.
Ce qui concerne les manifestations de vendredi et samedi, la Conf n'a pas appelé à ces manifestations. La Conf est au village de l'eau depuis la Rochenard 2022 et d'autres manifestations. J'ai toujours vu des drapeaux de la Conf en manif. Mais ça, c'est le libre arbitre des adhérents et adhérentes de la Conf d'être en manif ou pas.
Voilà, sur cette action du village de l'eau, la Conf n'est pas organisateur. Laisse libre ses militants d'aller manifester, enfin d'aller faire les 2 actions qui sont prévues. C'est pas une mise en retrait. On est dans une période relativement particulière dans le monde agricole aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a eu quand même un gros mouvement agricole en début d'année. Il y a des raisons évidentes pour ce mouvement agricole.
Il y en a eu plusieurs d'ailleurs. Il y a eu FNSEA, Coordination Rurale d'une part, et il y avait aussi la Confédération Paysanne. Donc je dirais que moi qu'il y a eu des mouvements.
C'est parce que cette année, on est en année de campagne électorale pour les élections professionnelles. Donc la petite guéguerre de passer devant les médias, de faire plus fort que le syndicat voisin, qu'on n'a pas fait. Par contre, nous, on n'a pas appelé à rentrer dans les fermes à l'annonce du gouvernement à la suite de laquelle les dirigeants de la FNSEA, de la Coordination Rurale, ont dû à leur troupe rentrer dans les fermes. On a obtenu ce qu'on... Non, on n'a rien obtenu du tout. Rien sur le revenu. Et le modèle qu'on propose, c'est le modèle qui a envoyé les paysans dans le mur et qu'on accélère. Donc on n'a rien obtenu du tout.
Et aussi concerne la Conf 37, il y a eu une opération qui consistait à, symboliquement, à murer avec des bottes de paille l'entrée d'un cabinet de courtage. Donc ces gens qui spéculent sur le prix des matières premières.
Auprès de Lactalis, des gens qui pompent le revenu des paysans en fait. Donc on a privilégié ce type d'action-là. Et aujourd'hui, nous, on appelle vraiment au dialogue. On aimerait bien arriver à tout ce que j'ai dit avant. Parce qu'en fait, en face, il n'y a pas de raisonnement global, il n'y a pas de raisonnement sur le long terme. C'est juste sauver un modèle agricole qui est dans le mur, qui sert qu'à une minorité. Ici, chez nous, les bassines, c'est... Alors, les irrigants, c'est 12%. Sur l'ensemble de la France, c'est 93% des paysans sont sur une agriculture dite pluviale. C'est-à-dire, sans irrigation, ils jouent avec la météo. Mais pas qu'avec la météo, avec des sols vivants, avec plusieurs ateliers sur la même ferme. Quand il y en a un qui capote, mais il y en a toujours un qui rattrape l'autre, etc. Là, on est sur de grosses monocultures céréalières. Donc, c'est uniquement pour la région Poitou-Charentes. Les irrigants, c'est 12% et les bassines vont concerner que 5 à 6%. Donc, à peine la moitié de la totalité des irrigants. C'est même plus une privatisation à ce moment-là, je trouve. C'est une captation totale, un hold-up d'une ressource qui est un commun. pas un bien commun, parce que dans le mot bien, il y a déjà la notion de marchandise. C'est un commun qui appartient à tout le monde, et d'abord et avant tout à la biodiversité et à la nature. Dans les règles normales, c'est donc l'eau potable. C'est le premier des aliments. Que tu manges des végétaux, des fruits, du liquide, de la viande ou du poisson, tu manges d'abord et avant tout de l'eau. C'est le premier de nos aliments. On a besoin de reconstituer constamment notre eau et on est constitué de 70% d'eau. Ensuite, au même niveau que l'eau potable, c'est la bonne continuité des milieux naturels, parce que l'arbre a besoin d'eau, toute la biodiversité a besoin d'eau. Et ensuite, il y a les autres utilisations.
Je reviens aux philosophies de pensée de la Confédération paysanne en prenant le truc inverse. La FNSEA est un syndicat qui vise à la disparition du monde paysan et à la concentration dans les mains de quelques-uns, d'une poignée du monde agricole. Et ce donc au prix de la disparition d'exploitation et d'une concentration, ça s'appelle l'agro-industrie. Il y a aussi des tas de gens qui sont à la FNSEA, qui sont pris le doigt dans l'engrenage des endettements massifs auprès du Crédit Agricole, machin, qu'il y a le regard aussi du voisin, de l'autre, du syndicat. Il ne faut pas raisonner en disant que tous les adhérents et adhérentes de la FNSEA sont des ennemis. Parfois, ce sont des gens qui ne savent pas comment sortir d'une nasse, d'un piège.
Nous, on n'a jamais stigmatisé les paysans en tant que tels. Ils sont pris dans un piège, ils ont été pris dans un piège. Et ça commence au moment de l'enseignement agricole. Ça commence très tôt, et ça évolue pas vite, hein, l'enseignement agricole. Donc on ne peut pas les stigmatiser. Par contre, ce qu'on peut dénoncer, c'est les dirigeants de la FNSEA. Quand le président de la FNSEA, c'est le président du groupe Avril, par la même occasion vice-président du port de commerce de La Rochelle, qui va exporter une bonne partie du maïs et du blé, qui justifie soi-disant au nom de la souveraineté alimentaire, laquelle les méga-bassines, là c'est dramatique. Mais nous, on connaît sur nos territoires des irrigants même de la FNSEA, qui disent, mais nous, on arrête, on ne peut plus suivre. Parce que financièrement, déjà, dans leur projet de bassine, alors outre l'aberration environnementale, on va dire, d'aller sortir du sous-sol une eau qui est à l'abri et gratuitement stockée, de la mettre en plein air avec l'évaporation, les cyanobactéries et tout le bordel, le coût, ce qu'ils n'avaient pas prévu à l'origine dans leur projet de bassine, c'est la flambée du coût de l'énergie. Parce qu'une bassine, c'est du terrassement, le liner, c'est du pétrole, les pompes pour remplir la bassine et ensuite pour amener ça dans les champs, c'est de l'énergie, c'est de l'électricité. Le coût de la surveillance des bassines, ça c'était pas prévu dans l'étude prévisionnelle d'installation. Et là, le prix du mètre cube pour irriguer du maïs devient trop cher. Économiquement, ça tient pas la route du tout. Et du court terme. Cette année, il a plu. Cette année, tout le monde est en retard dans les foins et les moissons. Cette année, il n'y avait pas besoin d'irriguer. Il y a eu trop d'eau. Enfin, il n'y a jamais trop d'eau. Mais il y a eu suffisamment d'eau pour faire une agriculture pluviale. Et les deux dernières années passées, logiquement, selon la directive européenne, ils n'auraient pas pu remplir leurs bassines. Ils les ont pu les remplir sous dérogation préfectorale. Ils ont eu une dérogation. Mais ça va loin, c'est que c'est très grave. Parce que quand ils ont pompé dans les nappes en hiver, là, sortie d'hiver et printemps, le niveau des nappes chez nous était en dessous des moyennes quinquennales. Donc des niveaux les plus bas calculés sur 5 ans. Donc ils ont eu dérogation. Mais là où ça devient encore plus dramatique et là où il y a des failles au sein même des syndicats qui portent l'irrigation, c'est que le gars qui a accès à la bassine, donc les fameux 5% dont je te parle, le voisin qui est à côté, mais pas tout à fait à côté de la bassine, qui lui va se retrouver trop loin pour être alimenté par la bassine, il est sur un forage traditionnel. C'est-à-dire que l'été de sécheresse, quand le préfet va faire un arrêté d'interdiction d'irriguer, le collègue qui est sur un forage, il n'a pas le droit d'irriguer. Et le copain d'à côté qui est sur une bassine, il va pouvoir continuer à irriguer en plein soleil, en plein cagnard son maïs. C'est une concurrence déloyale manifeste. Et le jeune qui arrive dans le métier, qui s'installe comme maraîcher, qui a besoin de 5 000, 6 000, 8 000 m3 par an pour faire des légumes, ou à deux, ils vont peut-être faire 350 ou 400 paniers semaine, ben lui, il n'a pas accès à l'eau, carrément. Parce qu'il n'y a plus d'eau à partager. C'est grave, quoi. C'est hyper grave. Ce qu'ils font, c'est hyper grave. C'est un rapt. C'est d'une violence extrême. On n'a pas abordé le problème de la violence, mais moi, je trouve que ça, c'est d'une violence extrême. Vraiment. Pour les bébés qu'on voit dans les poussettes, enfin, pour les jeunes qui sont là, moi, je les comprends, les jeunes. Hein. Moi, j'aurais 19 ans, je serais très violent. Hein. J'ai pris un peu de bouteille et je me suis un peu assagi avec l'âge. Mais évidemment, évidemment qu'on a de quoi être très énervé.
Les méga-bassines, les fermes usines, de cette société-là, on n'en veut pas. Les méga-bassines, les fermes usines, cette société-là, on n'en veut pas. Les méga-bassines, les fermes usines.
Dernière étape de cette spéciale Copains et camarades, c'est avec Sébastien du collectif Visa.
vigilance, initiative syndicale antifasciste. L'occasion de rappeler une fois de plus qu'il n'y a pas de hiérarchie des luttes, toutes sont prioritaires. Le combat anti-bassine se mène de front avec les combats anticapitalistes, antipatriarcales, antifascistes, et on en oublie. Bonjour Sébastien.
Salut.
Qu'est-ce que c'est VISA ?
Vigilance et initiative syndicale antifasciste. C'est une association qui existe depuis 1996 et qui regroupe 240 structures syndicales sur toute la France, avec Solidaire, CGT, FSU, hein, c'est le triptyque de base on va dire, et puis pas mal de syndicats à chaque fois des uns et des autres. Un syndicat de la CFDT, un syndicat IFO, oui c'est possible, des syndicats de la CNT, CNTSO, syndicat de la magistrature et depuis peu le syndicat des avocats de France. Vigilance, initiative syndicale antifasciste.
Vigilance, oui, l'époque est un peu tendue, donc faut être vigilant.
Bah oui, ça fait depuis 96 qu'on mène ce boulot. À l'époque, c'était en fait la commission syndicale d'un mouvement qui s'appelait Ralfront. 96, ça correspondait pour les plus jeunes à, on va dire, la première offensive sociale du Front National, qui avait créé en 96 cinq syndicats étiquetés FN, Force Nationale, hein, mais bon, c'est un faux nez pour FN Police, FN Pénitentiaire, ce qui n'est pas très étonnant en termes de version régalienne, on va dire. Et puis par contre, ils avaient fait également créer un FN RATP, FN Transport en Commun Lyonnais, FN Transport en Commun. Voilà, cinq syndicats étiquetés FN. Et c'était l'époque où ils venaient d'acquérir quatre mairies en région PACA, Toulon, Orange, Marignane et Vitrolles. Et puis voilà, donc c'était pour crever un peu le plafond de verre. Et du coup, ils venaient faire concurrence aux syndicats. Et donc, ils ont créé ces syndicats qui ont été invalidés grâce justement à une réaction antifasciste syndicale et donc un travail de vigilance. Ouais.
VISA V comme vigilance, le A de antifasciste, I comme initiative.
Oui, antifasciste parce qu'on se revendique effectivement d'une filiation antifasciste hein, qui existe depuis les... que le fascisme existe depuis les années 20. Alors on n'est plus dans le même contexte, hein, les années 20, les 30, fascisme, nazisme, le franquisme, etc. Mais à l'époque, on sait que dans les pays où ils ont pris le pouvoir, parmi leurs premières victimes, ça a été à la fois leurs opposants politiques et les syndicalistes. Hitler, quand il prend le pouvoir en 1933, le 1er mai, c'est la dernière fois où les syndicats manifestent librement. Et le 2 mai, tous les syndicats sont interdits, les locaux sont dévastés, les syndicalistes sont arrêtés et mis dans les premiers camps de concentration qui étaient pour leurs opposants politiques, d'où le fameux triangle rouge pour les opposants politiques dans les camps de concentration, puisqu'après vont venir évidemment les juifs, les tziganes, les homosexuels, le triangle rose, etc., etc. Voilà, donc le triangle rouge, l'aspect antifasciste. Et initiative, parce qu'en fait, on fait deux types d'initiatives. La première, c'est tout un boulot d'analyse, à la fois FN, RN, devenu RN, l'extrême droite dans le monde du travail, comment leurs idées diffusent aussi. On l'a vu, hein, ils sont capables de dire tout son contraire, notamment sur les retraites, par exemple. Donc on a fait un gros boulot avec pas mal de brochures qui ont été vendues à chaque fois plus de 10 000 exemplaires et diffusées dans les structures syndicales pour les équipes militantes, pour armer syndicalement les équipes. Et par ailleurs, on fait un boulot également de formation. Formation syndicale, depuis 2013, on a fait plusieurs centaines de formations avec à chaque fois entre 20 et 100 syndicalistes. Donc on a fait un gros boulot de fourmi dans une soixantaine de départements, quoi. Toujours pour les syndicalistes.
Point antifasciste que tu mentionnais tout à l'heure, il y a une historienne que j'aime bien qui dit le fascisme, c'est un instrument qui sert à faire baisser les salaires. Peu importe le décorum, chemise brune, chemise noire, moustache, pas moustache, mèche, pas mèche, antisémite ou pas, peu importe, le fascisme est protéiforme, il met le masque du jour, mais, dit cette historienne, la vilaine Annie Lacroix-Harris, c'est le dernier instrument ou l'un des visages possibles, le plus hideux ou l'un des plus hideux de la bourgeoisie quant à la peur pour son capital. Quand la figure d'un Macron ne suffit plus, il y a toujours cette solution-là pour faire baisser les salaires.
Oui, alors
c'est une analyse qui peut être très choquante pour des tas de gens. C'est un instrument avant tout de guerre économique.
Oui, mais je pense qu'il y a une indépendance et une autonomie. C'est-à-dire qu'à l'époque, que ce soit en Italie, en Allemagne, la droite conservatrice pensait pouvoir instrumentaliser qui les fascistes, qui les nazis. La bourgeoisie et les industriels, évidemment, vont les financer et vont faire des très bonnes affaires fructueuses. Hein, d'où les bouquins d'Annie Lacroix-Harris, notamment sous le patronat français, effectivement sous l'occupation, et qui a fait des très très bonnes affaires.
Ford, IBM, Lafarge,
Renault, qui a été nationalisé après, mais voilà, donc c'est clair.
Les industries de cosmétiques françaises qui ont toujours été fascistes.
Oui, ouais. Et puis là, on l'a vu avec Bolloré et d'autres, là il y a une opération séduction et... À la limite, la question du racisme, du remplacement,
ne choque pas.
J'ai rappelé qu'on n'a pas besoin d'être antisémite pour être fasciste. D'ailleurs, dans le mouvement fasciste de Mussolini, il y avait des juifs qui militaient. Ils ont été
très... Oui, simplement, ils ont adopté effectivement les lois raciales à partir de 1938, un peu à l'image de ce qui s'est passé en Allemagne nazie. Donc il y a toujours, de toute façon, un fond. Il y a des invariants, c'est-à-dire le nationalisme, c'est-à-dire la figure autoritaire, évidemment. Alors, ce n'est plus le même contexte que les années 20-30. Hein. 40, ça je le redis, maintenant ils ont la cravate, on a fait une belle affiche avec un vautour avec une cravate, et d'ailleurs c'était leur emblème des députés pour montrer leur respectabilité, et voilà.
C'était un petit crochet pour rappeler la fluidité du fascisme, oui, qui peut, voilà, quelle que soit la couleur de la chemise, en fait, bon, il est très protéiforme et adaptable.
Oui, tout à fait, ils ont des courants parfois contradictoires aussi, il y a aussi bien des monarchistes, des nationalistes... dit révolutionnaire, etc.
Les homosexuels.
Oui, oui, bien sûr. Non, mais il y a des changements. Ils s'adaptent au contexte. Selon les pays, c'est pas tout à fait les mêmes. Mais voilà. Bon, bref. Mais voilà. Pour nous, ça représente effectivement un danger. Et on dit que c'est le pire ennemi aussi des salariés, justement, quand il est capable de percer le plafond de verre et de faire alliance, évidemment, avec une frange du grand patronat. Voilà. Ils se représentent d'ailleurs comme le parti de l'ordre. Hein. C'est pas pour rien. Il y a aussi des mots qui résonnent aussi. Hein. L'ordre, la sécurité, évidemment l'immigration, terrain qui laboure depuis plus de 5 décennies avec malheureusement un grand succès. Quoi.
Alors voilà pour le A de visa, le A de antifasciste, et puis on n'a pas fait le S.
Syndical, parce qu'on regroupe que des syndicalistes, que des syndicats. On est autonome du champ politique, on vit que par les cotisations de nos adhérentes et adhérents, donc les structures syndicales, et les camarades qui animent visa sont mandatés par leurs structures syndicales. Ça nous paraît important, c'est-à-dire qu'on n'est pas des électrons libres, mais par contre, on fonctionne sur la dynamique du consensus. Hein. Comme je t'ai montré, tu as vu, entre la CNT, la FSU, la CGT solidaire, enfin voilà, il y a plein de différences aussi, mais au moins sur le terrain de la lutte contre l'extrême droite et les idées d'extrême droite, pas seulement contre le Front National, le Rassemblement National, qui est un peu le vaisseau amiral, on va dire, force de proue, mais on a vu Reconquête, mais également les groupuscules qui agressent dans les manifs, des locaux syndicaux qui sont ciblés, des syndicalistes qui sont attaqués, menacés. Enfin voilà, donc du coup, on a cette particularité effectivement de réunir d'agir sur le champ syndical, ce qui ne empêche pas de faire avec d'autres, comme on a fait avec Acrimed, Action Critique Média, sur la question des médias et la banalisation de l'extrême droite, comme on bosse avec une des associations comme dans le cadre de Vox Public. Enfin voilà. On est un peu tous azimuts, mais quand même centré sur le terrain de la lutte syndicale antifasciste.
Voilà, donc visa et vigilance, initiative syndicale
antifasciste.
C'est un outil créé par toutes les structures que tu as énoncées au début, une espèce de tuyau de communication, de formation et d'action.
Oui, c'est ça, ouais. Alors tu remarqueras qu'il y a des syndicats qui sont absents, hein, de... voilà, qu'on
mais
voit
ça,
pas.
C'est normal, tu veux dire que la CFDT n'est pas là.
Et ils sont relativement clairs, je te dis, on a un syndicat CFDT, ils sont assez clairs pour exclure, contrairement à d'autres syndicats, par exemple comme FO, pour exclure quand ils ont des gens qui se révèlent être des militants d'extrême droite. Alors, ils peuvent ne pas être d'accord, mais au moins, sur cet aspect-là, ils sont assez clairs. Comme l'UNSA, assez curieusement aussi, est assez clair, et a encore récemment, en 2022, ils ont viré effectivement deux responsables de syndicat UNSA qui étaient directement sur des listes du Rassemblement National.
Et donc Visa est là sur ce village de l'eau.
Oui, avec d'autres camarades. Là, on n'est pas loin par exemple de Solidaire. Solidaire est partie prenante depuis l'origine de Visa. Voilà. Et comme le contexte fait qu'il est quand même bien pourri par la montée de l'extrême droite d'un point de vue électoral et aussi la diffusion des idées, largement de là, on l'a vu sur cette saloperie de loi immigration qui a été adoptée quand même par les macronistes, LR et Rassemblement National, ça nous semblait important d'être aussi pas déconnecté des luttes en cours et que les intersectionnalités des luttes, de défendre aussi bien le monde paysan, la bataille de l'eau, etc. D'ailleurs, dans la Confédération paysanne, il y a aussi certains de la Confédération paysanne qui sont dans des visas locaux, par exemple en Ariège, en Bretagne, etc., qui sont inscrits également dans notre aide de visa. Donc ça, c'est intéressant aussi, c'est pas que les syndicats de salariés classiques, ouvriers, employés, mais aussi les syndicats d'agriculteurs comme la Conf paysanne.
Et donc, retenez cet acronyme VISA, Vigilance Initiative Syndicale Antifasciste.
Nos Bassaranes et nos Passaranes, ouais.
Et voilà les amis, c'est ici que prend fin ce chapitre de notre feuilleton Village de l'eau, à podcaster via notre site polymixetlavoixoff.com. Avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur votre radio libre préférée, ce n'est qu'un combat, continuons le début, no basaran.